Bonjour, aujourd'hui troisième épisode de notre série consacrée à l'Iran. 1979, Khomeini a-t-il volé la révolution iranienne? Toujours en compagnie du géographe et historien Bernard Ourcade, spécialiste de l'Iran. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la contestation envers le régime autoritaire du Shah s'est transformée en 1978 en véritable révolution avec d'immenses manifestations dans tout le pays. Le vendredi noir du 8 septembre 1978 a marqué un tournant irréversible dans la révolution iranienne. Jusqu'à cette date, certains espéraient encore une sortie de crise négociée, une réforme du régime ou un compromis entre monarchie et contestation. Mais le massacre de la place Jalet au cœur de Téhéran, où de très nombreux manifestants pacifiques sont abattus par l'armée, enterre toute possibilité de réconciliation. Pour la majorité des Iraniens, cet événement scelle la perte de légitimité du Shah. Le pouvoir, perçu désormais comme criminel, est entraîné dans une spirale d'isolement et d'effondrement. Le pays entre en grève générale, les enseignants, les cheminots, les fonctionnaires, le personnel hospitalier. En octobre, les raffineries de pétrole, vitales pour l'économie, cessent de fonctionner. Le pays est paralysé.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Et la contestation s'organise. Les comités révolutionnaires qui se multiplient dans les quartiers, les mosquées et les bazars s'occupent de la logistique des manifestations, distribuent les cassettes de sermons de Khomeini, organisent des services sociaux et de fait échappent totalement au contrôle du régime. Dans les manifs, maintenant quotidiennes et de plus en plus massives, les slogans changent. On ne réclame plus des réformes, mais le départ pur et simple du Shah. Autre nouveauté, les soldats hésitent à tirer. Des généraux commencent à douter, des ministres démissionnent. Pour l'instant, la contestation a encore un double visage. Celui des chiites intégristes, très mécontents de l'occidentalisation de l'Iran et de la trop grande liberté accordée aux femmes. Et il y a l'autre opposition, celle des élites urbaines, des milieux politisés et universitaires, libéraux ou d'extrême gauche, qui dénoncent le caractère autocratique du régime, le manque de liberté, la trop grande soumission aux États-Unis et qui espèrent encore une solution laïque à la crise. Le 12 décembre 1978, 2 millions d'Iraniennes et d'Iraniens défilent dans Téhéran, plus que jamais à feu et à sang. Le slogan « Indépendance, liberté, république islamique » domine. Pour tenter de reprendre la main, le Shah nomme Shapur Bakhtiar, un ancien opposant de tendance social-démocrate, comme Premier ministre. Une de ses premières mesures est d'abolir la censure. Mais c'est trop tard, rien ne semble pouvoir endiguer la révolution. Et le 16 janvier 1979...
Le Shah a quitté l'Iran ce matin avec la Chabanou. Il était 13h15, heure locale. Seul était présent au pied de la passerelle le Premier ministre Shapur Bakhtiar, le ministre de la Cour et les deux présidents de l'Assemblée et du Sénat. Deux journalistes iraniens ont pu recueillir les propos du Shah. Celui-ci a dit qu'il ne savait pas quand il rentrerait, que cela dépendait de son état de santé. Le Shah, qui avait les larmes aux yeux, d'après les témoins, a déclaré au moment de monter dans le Boeing 707 qui doit l'emmener à Assouan en Égypte, qu'il croyait à l'avenir de l'Iran grâce à sa culture et à son nationalisme. Écoutez à la radio iranienne l'annonce du départ du Shah.
En réalité, le Shah, qui part officiellement pour se reposer, ne reviendra jamais en Iran. La scène est restée célèbre. En portant avec lui une poignée de terre, il monte dans l'avion avec sa femme, Farah, sans un mot, pendant que l'orchestre militaire joue l'hymne impérial. Aucun pays occidental ne veut recevoir ce souverain discrédité. Comme il semble loin, le temps des fêtes de Persépolis. La nouvelle du départ du Shah se répand vite dans Téhéran. Le reporter de France Inter, Yves Loiseau, est présent.
C'est véritablement du délire. Les gens sont dans les rues, ils lancent des bonbons, ils lancent des fleurs. Les gens crient, les gens sont montés sur les camions militaires. Il y a de véritables grappes humaines sur les camions militaires. On lance des œillets aux soldats, bref. Véritablement le délire.
Toute un homme s'en va, donc le Shah d'Iran. Un autre est attendu avec impatience, l'ayatollah Khomeini, qui depuis l'automne 1978, curieusement, vit en France, à Naufle-le-Château, une petite ville de la région parisienne. Bernard Ourcade, pourquoi l'ayatollah Khomeini est-il en France, à Naufle-le-Château, et qu'est-ce qu'il y fait?
Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de visa pour venir en France quand on est iranien. Roménie avait un passeport iranien. Il est donc venu en France pour séjourner, à la demande de Banissard notamment, un étudiant iranien en exil, Lamat Salamatian et d'autres amis, qui ont dit, bon écoutez, vous ne pouvez pas aller en Algérie, l'Algérie n'en voulait pas, venez donc en France, on peut trouver une solution. Et ils ont trouvé un moyen de le loger. Ils l'ont logé chez la villa d'un ami de leur réseau qui a une maison dans la banlieue de Paris à Neuf-le-Château, disant, voilà, on peut au moins le loger quelques jours ici, et ça a duré quelques mois.
Et qu'est-ce qu'il y fait, justement ?
Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un espèce de mystère, Neuf-le-Château. Parce que personne ne savait ce qui se passait en Iran. Les démocrates n'étaient plus en vogue. Les trotskistes et les marxistes étaient un peu trop guerre froide, ne pas oublier cela. Les religieux, personne n'en voulait. Mais il s'est passé une synthèse bizarre à Neuf-le-Château. Tout le monde est venu à Neuf-le-Château en disant, il faut, la révolution est là, les choses vont changer, il faut être là. Et ça se passe où ? À Neuf-le-Château, un endroit inconnu. Et donc, la droite, la gauche, les libéraux, tout le monde s'est retrouvé là pour essayer de contrôler ce qui pourrait être la synthèse bizarre entre l'Iran nationaliste, la liberté et l'islam populaire de l'Iran.
Les journalistes aussi du monde entier se pressent à Neuf-le-Château, on assiste à des scènes étonnantes. Ils viennent pour interviewer ce vieil homme enturbanné, barbe blanche, sourcils noirs, au regard sévère, assez impénétrable, assis en tailleur, par terre ou sous un pommier, entouré de conseillers et de fidèles.
Quatre fois par jour, il quitte sa villa, traverse la rue pour aller prier en face, dans une mosquée, improvisée sous une tente. Le reste du temps, il téléphone, envoie des messages, reçoit un flot de visiteurs.
Une fois le Shah parti, qui gouvernera l'Iran ? Vous ? Ou bien est-ce que vous participerez à un gouvernement ?
Non, ce ne sera pas moi. On choisira un conseil, et dans ce conseil, il y aura un parlement élu au suffrage universel. En fait, c'est ça qui va décider du sort du pays, du sort de l'Iran.
Donc Berda Ourcade, il est en exil, mais en même temps, il profite à plein de cette médiatisation, l'ayatollah Khomeini, pour préparer son retour, on peut le dire.
Tout à fait. Il faut voir que Khomeini est un personnage tout à fait moderne, ouvert à la démocratie, au parlementarisme. C'est un homme politique. Et qui a ouvert à la modernité médiatique. Les cassettes qu'il avait, les mini-cassettes, c'était nouveau à l'époque, c'était très branché. Il a utilisé les mini-cassettes, comme aujourd'hui les réseaux sociaux par exemple, pour développer sa révolution. Et donc on a un personnage qui est très ambigu, d'un côté un ayatollah classique, de l'autre côté un personnage politique qui sait effectivement jouer de toutes les facettes de la vie contemporaine.
Oui, parce qu'il dit dans son discours, non, je ne veux pas prendre le pouvoir, je suis un grand démocrate...
Je ne dis pas que je suis un grand démocrate, mais je constate que le pouvoir doit être donné au peuple. Et ça, c'est très important. Il sait qu'il a le peuple derrière lui. Il sait que les intellectuels de gauche avaient 15 000 personnes dans la rue, lui, c'est 3 millions. Donc, si on est démocrate, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. Donc, j'ai le soutien de la majorité des gens. Ça, c'est incontestable.
Enfin, il dit qu'il ne veut pas prendre le pouvoir.
Absolument. Mais c'est le pouvoir, il l'a pris. C'est une autre histoire. C'est l'attaque de Saddam Hussein en septembre 1980 qui fait que l'Iran étant attaqué, tout le monde est en guerre et tout le monde est uni. Il y a un chef d'État, c'est Khomeini. Les choses n'étaient pas dites à l'époque, mais quand il y a une guerre, tout le monde se réunit derrière le chef de l'État, et c'est Saddam Hussein, finalement, et ceux qui l'ont soutenu, qui ont fait que Khomeini a gardé le pouvoir, alors que en 1979, il était loin d'avoir des atouts en main.
En France, le discours encore policé de l'ayatollah Khomeini réussit à séduire curieusement une partie des intellectuels, par exemple les philosophes Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, qui se rendent à Neuf-le-Château pour rencontrer Khomeini. Et quand le régime du Shah, par exemple, tombera quelques mois plus tard, Michel Foucault écrira « Téhéran au février 1979, l'histoire vient de poser au bas de la page le sceau rouge qui authentifie la révolution ». Comment expliquer cette fascination de philosophes comme Foucault ou Sartre pour l'ayatollah Khomeini, pour la révolution iranienne ?
Pas pour l'ayatollah Khomeini, mais il faut se souvenir, nous étions 2 ans après la chute de Saïgon. On était en pleine guerre froide, où les dictatures pro-occidentales étaient combattues par des guérillas de gauche aux communistes dans le monde entier. Et donc Sartre ou Foucault, partisans de la liberté des Vietnamiens, voyaient enfin le peuple iranien, il est ce qu'il était avec un ayatollah, peu importe, qui prend sa destinée en main, on soutient la destinée du peuple. Khomeini a le peuple avec lui, pour ou contre, mais il a le peuple avec lui. Donc on soutient cette révolution.
Merci Bernard Ourcq. Dans le prochain épisode, je raconterai l'accueil triomphal qu'une foule en délire a réservé à Khomeini à son arrivée à Téhéran le 1er février 1979.